Leilouin balaya du regard les nombreux camps qui se dressaient sur le site appelé le champ de Merilor. Dans l'obscurité, alors que la lune tardait encore à se lever, elle pouvait presque prendre les feux de camp pour les lanternes de proue d'une multitude de bateaux allant et venant dans un port grouillant d'activité. Un spectacle auquel elle n'assisterait probablement plus jamais. Leilouin, sans navire, n'était plus capitaine, et elle ne retrouverait pas son grade. Désirer qu'il en soit autrement revenait à défier la nature profonde de l'être qu'elle était devenue. Bail posa sur son épaule une main aux doigts épais couverts de cale après des jours et des jours de labeur. Leilouin mit une main sur celle de son époux. Se glisser via un des portails ouverts à Tarvalon avait été un jeu d'enfant. Même s'il avait râlé d'abondance, Bail connaissait très bien cette ville.
« Cet endroit fait se hérisser tous les poils de mes bras !»
s'était-il lamenté.
« J'espérais bien ne plus jamais arpenter ces rues. Oui, j'espérais. »
Malgré tout, il avait accompagné Leilouin. Un brave homme, ce Bail d'Omon. Le meilleur qu'elle aurait pu trouver en ces terres inamicales. Bon, dans son passé, il y avait des moments peu glorieux. Mais la contrebande était derrière lui désormais. S'il ne comprenait pas vraiment comment tournait le monde, il essayait de toutes ses forces.
« Une sacrée vision !»
dit-il en contemplant la mer de lumière.
« Que veux-tu faire à présent ?»«
Trouver Nineveh Almehara ou Elaine Trakande. »
Bail gratouilla son menton barbu. Cédant à la mode de Liliane, il n'arborait pas de moustache. Sur sa tête, les cheveux étaient de plusieurs longueurs. Depuis que Leilouin l'avait libéré de ses obligations, il ne se rasait plus une partie du crâne. Bien entendu, elle avait fait ça pour qu'il puisse se marier. C'était très bien. Ici, un crâne en partie rasé aurait attiré l'attention. Une fois certains problèmes résolus, Bail avait été un excellent Sojin. Mais au bout du compte, Leilouin avait dû reconnaître qu'il n'était pas taillé pour ce rôle. Un type doté de trop d'aspérité que rien ne viendrait jamais à planir. Et c'était ainsi qu'elle voulait qu'il soit, même si elle ne le lui avait jamais avoué.
« Il est tard, Leilouin, » dit-il. « Nous devrions peut-être attendre demain. »
Non. Les camps étaient tranquilles, certes, mais ce n'était pas la quiétude du sommeil. Plutôt celle de navires qui attendent que se lève un bon vent. Leilouin ne savait pas grand-chose sur ce qui se passait ici. À Tarvalon, elle n'avait pas osé poser des questions, de peur que son accent séanchanien la trahisse. Mais un rassemblement de cette envergure ne pouvait rien devoir au hasard. La taille de cette réunion la stupéfiait. Bien entendu, elle avait entendu parler de cet événement auquel la majorité des Aes Sedai participerait. Mais la réalité dépassait ses spéculations les plus folles. Bail, dans son sillage, elle commença à traverser le site, se dirigeant vers la colonne de serviteurs de Tarvalon qu'on leur avait permis d'accompagner, grâce au pot de vin de Bail. Ses méthodes déplaisaient à Leilouin, mais elle n'avait pas eu de meilleure idée. Cela dit, elle évitait de trop penser aux contacts très spéciaux de Bail à Tarvalon. Mais si elle ne montrait plus jamais sur le pont d'un navire, lui n'aurait plus l'occasion de s'adonner à la contrebande. Une petite consolation.
« Tu es capitaine de vaisseau. C'est tout ce que tu sais faire et tout ce que tu veux faire. Et te voilà sans navire. »
Leilouin frissonna et serra les poings pour s'empêcher d'enrouler ses bras autour de son torse. Passer le reste de sa vie sur ces terres monotones sans jamais avancer plus vite que ce qu'un cheval pouvait courir. Ne plus sentir l'air du large. Ne plus orienter la proue de son navire vers l'horizon. Ne plus jamais relever l'ancre, déployer les voiles et simplement... Leilouin s'ébroua. Trouver Nineveh et Elaine. Sans navire ou non, elle n'était pas femme à faire naufrage et à sombrer. Son cap établi, elle accéléra le pas. Soupçonneux, Bail rentra la tête dans les épaules et tenta de regarder dans toutes les directions à la fois. L'air soucieux, il lorgna aussi plusieurs fois sa femme. Facile de deviner pourquoi.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Leilouin.
« Qu'est-ce que nous fichons ici ?»«
Je te l'ai dit, on cherche... »«
D'accord, mais pourquoi ? Quel résultat attends-tu ? Ce sont des Aes Sedai. »
« Oui, mais elles m'ont manifesté du respect par le passé. »«
Donc, tu penses qu'elles nous accepteront ?»«
Peut-être, oui. Allons, Bail, dis-moi ce que tu as sur le cœur. »
« Pourquoi faudrait-il nous mêler à ça, Leilouin ? » Nous pouvons trouver un bateau et filer quelque part où il n'y a ni Aes Sedai ni Sian Chanyin.
Je n'aimerais pas le genre de navire que tu choisirais.
Bale regarda mornement sa femme.
Je suis capable de gagner ma vie honnêtement. Ce ne serait pas...
Leilouine leva une main pour faire taire son mari, puis elle la lui posa sur l'épaule. Ensemble, ils cessèrent de marcher.
« Je sais, mon amour, je sais. Je parle pour penser à autre chose qu'au courant qui nous entraîne vers nulle part. »«
Alors pourquoi se laisser entraîner ?»«
Pourquoi ?» Ce simple mot torturait Leilouine comme une écharde enfoncée sous un ongle. « Pourquoi ?» Pourquoi avait-elle fait tout ce chemin, voyageant avec Matrim Cotton, effrayant dangereusement avec la fille des Neuf Lunes ?
Mon peuple a une vision du monde profondément erronée, Bale. À cause de ça, il génère beaucoup d'injustices.
Ton peuple t'a rejeté, Leilouine. Tu n'en fais plus partie.
J'en ferai toujours partie, au contraire. On a banni mon nom, pas mon sang.
« Excuse-moi de t'avoir offensé. »
Leilouine hocha brièvement la tête.
« Je suis toujours loyal à l'impératrice, puisse-t-elle vivre éternellement. Mais les Daman, ces femmes sont les fondations de son règne, l'outil grâce auquel elle impose l'ordre et assure l'unité de l'Empire. Et tout repose sur un énorme mensonge. »
Les Souldam étaient capables de canaliser le pouvoir. Donc, le don pouvait s'apprendre. Des mois après que Leilouine eut découvert la vérité, elle n'osait toujours pas en mesurer les implications. Une autre personne, à sa place, aurait utilisé ce qu'elle savait pour en tirer des avantages politiques. Une autre encore serait retournée au Sean Shan avec l'idée d'augmenter son pouvoir. En un sens, Leilouine regrettait de ne pas l'avoir fait. En un sens seulement. Mais savoir la vérité au sujet des Souldam et des Aes Sedai, qui ne ressemblaient en rien à ce qu'on lui avait enseigné, quel fardeau moral! Pourtant, il fallait faire quelque chose. Certes, mais en agissant, ne risquait-elle pas de provoquer la chute de l'Empire? Comme à la fin d'une partie de Chal, chacun de ses mouvements devait être calculé avec une minutieuse précision. Les deux époux continuèrent de suivre la colonne de serviteurs dans l'obscurité. Souvent, l'une ou l'autre Aes Sedai envoyait des domestiques récupérer ce qu'elle avait oublié à la Tour Blanche. Du coup, les allées et venues étaient d'une grande banalité. Une excellente chose pour Leilouine. Sans ennui, la petite colonne dépassa le camp des Aes Sedai. Leilouine s'étonnait que tout ça soit si facile quand elle repéra plusieurs hommes le long du chemin. Ne pas les remarquer aurait été aisé, car un accessoire vestimentaire sur eux se fondait dans le décor, particulièrement lorsqu'il faisait sombre. En fait, Leilouine les avait vus quand l'un d'eux, se séparant des autres, était venu marcher quelques pas derrière son mari et elle. À l'évidence, il les avait repérés. Peut-être à leur façon de marcher ou de se tenir. Même si la barbe de Bale l'identifiait comme un Ilianien, ils avaient pris soin de choisir des vêtements passe-partout. Leilouine s'arrêta, posa une main sur le bras de Bale et se retourna pour affronter l'homme qui les suivait. Un champion, supposa-t-elle, à partir des descriptions qu'elle avait entendues. L'homme continua d'avancer. Alors qu'ils étaient toujours dans le périmètre du camp des Aes Sedai, Leilouine remarqua qu'une lumière, trop stable pour être celle d'une bougie ou d'une lampe, brillait sous certaines des tentes disposées en cercle.
« Salut !»
fit Bale en levant une main à l'intention du champion.
« Nous cherchons une Aes Sedai appelée Nineveh Almehara. Et si elle n'est pas là, pourrions-nous voir celle qui se nomme Elaine Trakand ?»«
Aucune des deux ne campe ici, » répondit le champion.
Les bras très longs, il se déplaçait avec une grâce féline. Son visage, encadré par de longs cheveux noirs, paraissait inachevé, comme sculpté dans du marbre par un artiste ayant perdu tout intérêt pour son œuvre avant de l'avoir terminée.
« Vraiment ?»
fit Bale.
« Dans ce cas, nous nous sommes trompés. Pouvez-vous nous indiquer où elle campe ? C'est une affaire assez urgente, pour tout dire. »
La parole facile, Bale pouvait être charmant quand il le fallait. Beaucoup plus que Leilouine, en tout cas.
« Eh bien, ça dépend, » répondit le champion. « Votre compagne, elle désire aussi voir ses Aes Sedai ?»«
En effet, elle... »
Le champion leva une main.
« Je veux l'entendre de sa bouche, » dit-il en étudiant Leilouine.
« C'est bien ce que je désire, oui, par ma vieille grand-mère bancale. Ces femmes nous ont promis de l'argent et j'entends le récupérer.
Les Aes Sedai ne mentent pas, tout le monde sait ça. Si vous ne pouvez pas nous conduire jusqu'à elle, chargez quelqu'un d'autre de le faire. »
Troublé sous ce bombardement de mots, le champion hésita. Enfin, par bonheur, il acquiesça.
« Suivez-moi. »
Il prit la direction opposée au centre du camp, mais il ne paraissait plus soupçonneux. L'Elwyn soupira de soulagement. Puis, avec Bayle, elle lui emboîta le pas. Son mari la regarda, très fier d'elle, et s'autorisa un sourire si béat que leur guide aurait tout compris s'il s'était retourné à ce moment-là. Malgré elle, l'Elwyn sentit ses lèvres s'étirer aussi. Prendre l'accent ilianien n'avait pas été facile, loin de là, mais sa façon de parler typique du Seanchan était dangereuse. Ils étaient tombés d'accord là-dessus, surtout quand on voyageait au milieu d'Aes Sedai. Selon Bayle, aucun ilianien digne de ce nom ne l'aurait prise pour une compatriote, mais elle était assez bonne pour abuser un étranger. L'Elwyn se sentit soulagé à mesure qu'il s'éloignait du camp des Aes Sedai. Avoir deux amies parmi ses femmes, oui, elles étaient amies, malgré leurs désaccords, ne lui donnait pas pour autant envie de traîner au milieu d'une horde de sœurs. Le champion guida les deux époux jusqu'au centre du champ de Merilor. Sur un grand terrain, une multitude de petites tentes composait un immense camp.
« Des Aiel !»
souffla Bayle à sa femme.
« Doit y en avoir des dizaines de milliers !»
Intéressant, ça. Des récits terrifiants circulaient sur les guerriers du désert. Des légendes qui ne pouvaient pas être toutes vraies. Cela dit, si exagérées qu'elles fussent, ces histoires laissaient penser que les Aiel étaient les meilleurs combattants de ce côté de l'océan. Dans d'autres circonstances, l'Elwyn se serait bien entraînée avec un ou deux de ses braves. À cette idée, elle tapota un côté de son sac. Celui où elle avait rangé son gourdin, dans une poche spéciale très facile à atteindre. En passant devant certains de ses guerriers, apparemment très détendus autour de leur feu de camp, l'Elwyn constata que les récits ne mentaient pas sur un point. Les Aiel étaient très grands. Et leurs yeux semblaient encore plus vifs que ceux des champions. Des gens dangereux, prêts à tuer, même quand ils se reposaient le soir. Dans le ciel noir, on ne pouvait pas distinguer les étendards qui flottaient au-dessus de ce camp.
« Champion, quel roi ou quelle reine dirige ce peuple ?»
demanda l'Elwyn. L'homme se retourna, visage noyé dans la pénombre.
« Ton roi, Ilianienne. »
Près de l'Elwyn, Bayle se raidit.
« Mon roi ?»
« Oui, le dragon réincarné. » L'Elwyn fut très fier de ne pas s'être emmêlé les pinceaux en marchant, mais ça n'était pas passé loin. Un homme capable de canaliser. C'était bien pire que les Aes Sedai, 100 fois pire. Le champion conduisit les deux époux devant une tente, au centre du camp.
« Vous avez de la chance, elle n'a pas encore éteint la lumière. »
En l'absence de garde, l'homme demanda à entrer et y fut invité. Écartant le rabat, il fit signe à l'Elwyn et à Bayle d'avancer. Mais sa main libre reposait sur la poignée de son épée, et il semblait prêt à en découdre. L'Elwyn détestait l'idée d'avoir dans son dos la lame de cet homme, mais elle entra quand même sous la tente éclairée par un globe lumineux. En robe verte, une femme très familière, assise à son bureau, rédigeait une lettre. Nineveh Almehara était ce qu'on aurait appelé une Telarti dans l'empire du Seanchan. Une femme avec du feu en guise d'âme. Durant son séjour de ce côté de l'océan, l'Elwyn avait appris qu'une Aes Sedai, en principe, était aussi calme qu'une mer étale. Nineveh pouvait apparaître ainsi à l'occasion, mais il ne fallait pas s'y tromper. Ces eaux paisibles-là, on les trouvait en aval des cascades les plus tumultueuses. Nineveh continua d'écrire sans relever la tête. Apparemment, elle n'arborait plus de nattes, ses cheveux tombant sur ses épaules. Une vision aussi perturbante que celle d'un navire sans mât de misaine.
« Je serai à toi dans un moment, Slit, »
dit-elle.
« Pour tout te dire, la façon dont les champions me couvent ces derniers temps me fait penser à une poule qui a perdu un œuf. Ton Aes Sedai n'a pas le travail à te confier. »
« Nineveh Sedai, l'âne est important aux yeux de beaucoup d'entre nous, »
répondit le champion. « Slit, donc. »
« Et à mes yeux, tu penses qu'il ne compte pas ?»« Sincèrement. » Je me demande si on ne devrait pas vous envoyer couper du bois ou un truc dans ce genre. Si un champion de plus vient s'enquérir de mes besoins... »
Levant les yeux, Nineveh vit enfin l'Elwyn. Aussitôt, elle afficha son masque d'Aes Sedai. Impassible et glacial. L'Elwyn sentit de la sueur perler à son front. Cette femme tenait sa vie entre ses mains. Pourquoi Slit ne l'avait-il pas plutôt conduite chez Elaine? Au fond, Elle n'aurait peut-être pas dû mentionner Ninevée.
Ces deux-là veulent te parler, dit le champion.
Son épée, il l'avait dégainée. Elwin ne s'en était pas aperçu, mais Bale marmonnait entre ses dents.
Selon eux, tu leur dois de l'argent, et ils viennent réclamer leur dû. À la tour, ils ne se sont pas fait connaître, mais ils ont trouvé un moyen de se faufiler dans un portail. L'homme est Ilianien. La femme vient d'ailleurs, car elle contrefait son accent.
Eh bien, Lélouis n'était peut-être pas aussi bonne qu'elle l'avait cru. Du coin de l'œil, elle lorgna l'épée. Si elle faisait un roulé-boulé latéral, Slit visant sa gorge ou son cœur, le coup la manquerait peut-être. Alors elle sortirait son gourdin et... Non, elle était face à une Aes Sedai. Donc, elle ne se relèverait jamais de son acrobatie. Le pouvoir de l'unique l'en empêcherait, en attendant pire.
« Je les connais, Slit, »
dit Ninevée, très calme.
« Tu as bien fait de me les amener. Merci. »
Son arme rengainée en un éclair, le champion sortit, aussi discret qu'un murmure.
« Si tu viens implorer mon pardon, »
dit Ninevée,
« tu te trompes d'interlocutrice. J'ai bien envie de te confier au champion pour qu'il t'interroge. De ton esprit tordu et pervers, ils tireront peut-être de précieuses informations sur ton peuple. Je suis également contente de te revoir, Ninevée. »
dit Leilouin, sans se laisser démonter.
« Bon, qu'est-il arrivé ?»
demanda Aes Sedai. « De quoi parlait-elle » s'interrogea Leilouin.
« J'ai essayé, »
dit soudain Bale, contrit.
« Je les ai combattus, mais ils m'ont vaincu sans mal. Ils auraient pu incendier mon bateau, nous noyer tous et tuer mes hommes. »«
Il y a rien. J'aurais préféré que vous mouriez. »
lâcha Ninevée.
« Le Terangréal a fini entre les mains d'une rejetée. » Ces mirages se cachaient parmi les Seanchaniens, faisant mine d'être une espèce de juge. Une voix de la vérité, c'est bien ce nom ?
Oui,
souffla Leilouin. Elle comprenait à présent.
Je regrette d'avoir violé mon serment, mais... Tu regrettes, Egeanine ?
Dit Ninevée. Elle se leva, sa chaise basculant en arrière.
Regret me semble un mot bien faible. Quand on a mis en danger le monde, poussé ses habitants au bord d'un gouffre d'obscurité, et flanqué un coup de pied pour qu'ils y tombent. Femme, ces mirages a fait fabriquer des copies de cet artefact. Et l'une d'elles s'est retrouvée autour du cou du dragon réincarné. Tu imagines? Le dragon contrôlé par une rejetée.
Ninevée leva les bras au ciel.
Lumière! Par ta faute, nous sommes passés à un souffle de la fin. La fin de tout! Plus de trame, plus de monde, plus rien! À cause de ton imprudence, des milliers de vies auraient pu être anéanties. Je...
Soudain, le fiasco de Leilouin lui parut monumental. Sa vie perdue, son nom perdu, son navire arraché à son commandement par la fille des Neuf Lunes en personne. Tout ça, ce n'était rien face à ce que disait Ninevée.
« Je me suis battu !»
insista Bale.
« J'ai donné tout ce que j'avais !»«
J'aurais dû me joindre à toi, semble-t-il, »
fit Leilouin.
« J'ai essayé d'expliquer ça, »
marmonna Bale.
« La lumière me brûle, j'ai essayé, il fut un temps. »
« Il fut un temps, oui !»
répéta Ninevée, en portant une main à son front.
« Que viens-tu faire ici, Egeanine ? J'espérais que tu n'étais plus de ce monde. Si tu avais péri en tentant d'honorer ton serment, je n'aurais pas pu te blâmer. »«
Mon serment, je l'ai renié face à Sourotte, »
pensa Leilouin.
« Le prix à payer pour ma vie, la seule voie de sortie. »
« Alors ?»
Ninevée foudroya son interlocutrice du regard.
« En avons-nous terminé, Egeanine ?
Ce nom, je ne le porte plus.
Leilouin tomba à genoux.
On m'a tout arraché, jusqu'à mon honneur, viens-je de découvrir. En échange, je me livre à toi. Contrairement aux Seanchaniens,
siffla Ninevée.
Nous ne considérons pas les gens comme du bétail.
Leilouin ne se releva pas. Bale posa une main sur son épaule, mais il n'essaya pas de l'aider à se redresser. À présent, il comprenait sa façon d'agir et de réagir. Parce qu'il était quasiment civilisé.
Debout !
Cria Ninevée.
Par la lumière, Egeanine ! Je me souviens d'une femme assez forte pour mâcher une pierre et recracher du sable.
C'est ma force qui me contraint à insister,
dit Leilouin en baissant les yeux. Ninevée ne comprenait-elle pas à quel point c'était difficile ? Se trancher la gorge aurait été tellement plus confortable. Mais il ne lui restait pas assez d'honneur pour exiger une fin si douce.
Debout !
Leilouin obéit. Sur le lit, Ninevée prit son manteau et s'en drapa.
Viens. Nous allons voir la chair d'Amerline. Elle saura peut-être que faire de toi.
Nineveh s'enfonça dans la nuit et Léluine lui emboîta le pas. Sa décision était prise. Un seul chemin avait encore un sens, une façon de préserver un peu d'honneur et peut-être d'aider son peuple à survivre aux mensonges dont on l'abreuvait depuis si longtemps. Léluine, son navire, appartenait désormais à la Tour Blanche. Quoi que disent les Aes Sedai et quoi qu'elle tente de faire d'elle, ça ne changerait plus. Les sœurs la possédaient. Pour la chair d'Amerline, elle serait une Dakovalée et traverserait cette tempête comme un bateau dont les voiles ont été déchirées par le vent. Avec ce qui subsistait de son honneur, elle pourrait peut-être se gagner la confiance de la dirigeante suprême.
Ça fait partie d'un traitement contre la douleur prisée dans les terres frontalières,
dit Melten en retirant le pansement qui couvrait le flanc de Talmanès.
Les feuilles macérées ralentissent le poison distillé par le métal maléfique.
Mince, les cheveux en bataille, Melten s'habillait comme un forestier d'Andorre. Une chemise toute simple et un manteau encore plus sobre, mais il parlait comme un frontalier. Dans sa sacoche, il gardait un jeu de boules de couleurs avec lesquelles il jonglait parfois pour divertir les bras rouges. Dans une autre vie, il avait dû être un trouvert. Un type qui semblait ne pas être fait pour appartenir à la compagnie. Mais c'était le cas de tous ses membres, d'une façon ou d'une autre.
J'ignore comment ce cataplasme affaiblit le poison, mais ça fonctionne. Comme ce n'est pas une toxine naturelle, on ne peut pas la retirer du corps.
Talmanès appuya d'une main sur son flanc. On eût dit que des lianes hérissées d'épines se tortillaient sous sa peau, déchirant sans cesse ses chairs. En d'autres termes, il sentait le poison envahir son corps, et c'était atrocement douloureux. Non loin de là, les bras rouges tentaient de se frayer un chemin jusqu'au palais. Entrés par la porte du sud, ils avaient laissé les mercenaires, commandés par Sandip, se charger de tenir celle de l'ouest. Si des gens résistaient quelque part en ville, c'était sûrement autour du palais. Hélas, des groupes de Trollocs maraudaient dans la zone qui s'étendait entre la position de Talmanès et le fief d'Elaine. Les escarmouches se multipliaient, ralentissant la progression. Sans aller sur place, Talmanès n'avait aucun moyen de savoir s'il y avait une résistance là-haut. Pour ça, il devrait y faire monter ses hommes en se battant tout au long du chemin, avec le risque d'être pris à revers si des maraudeurs déboulaient derrière eux. Eh bien, tant pis, il faudrait faire avec. S'il restait quelque chose des défenses du palais, il importait de le savoir. À partir de là, il serait possible de lancer une attaque avec l'espoir de récupérer les dragons. L'air empestait la fumée et le sang. Durant une brève accalmie, les bras rouges avaient entassé les dépouilles de Trollocs d'un côté de la rue, histoire de dégager le passage. Dans ce secteur de la ville, il y avait aussi des fugitifs, mais en moins grand nombre qu'ailleurs. Pas un flot, mais un filet qui sourdait des ténèbres, tandis que Talmanès et ses gars s'emparaient d'une partie des voies qui conduisaient au palais. Ces malheureux-là ne demandaient jamais que la compagnie protège leur maigre possession ou leur demeure. En voyant que des hommes résistaient encore, ils pleuraient de joie, tout simplement. Madwin avait mission de les diriger vers la liberté et la sécurité, via le couloir de survie ménagé par la compagnie. Talmanès leva les yeux vers le palais, au sommet de la colline. Dans le noir, il était à peine visible. Alors que presque toute la cité brûlait, ce dernier bastion ne flambait pas, ses murs blancs se dressant dans la nuit enfumés comme autant de fantômes. Pas de feu. C'était un indice de résistance, non? S'il l'avait pu, les Trollocs n'auraient-ils pas d'abord dévasté ce puissant symbole du royaume d'Andorre? Alors qu'il s'autorisait une courte pause, ainsi qu'à ses hommes, Talmanès avait envoyé des éclaireurs voir où en étaient les choses. Son cataplasme terminé, Melten le banda en serrant très fort.
« Merci, mon ami, »
dit Talmanès avec un hochement de tête reconnaissant.
« Je sens que ça agit déjà. Tu as dit que c'est une partie du traitement contre la douleur. Quelle est l'autre ?»
Melten décrocha une flasque de sa ceinture et la tendit à son chef.
« De l'agneau explosif du chienard. »
« Boire pendant une bataille n'est pas une très bonne idée, mon vieux. »«
Prends quand même la flasque et vide-la, seigneur. Sinon, dans une heure, tu ne tiendras plus sur tes jambes. »
Talmanès hésita, puis il saisit la flasque et but une longue gorgée. L'agneau brûlait encore plus que sa blessure. Toussant comme un perdu, il éloigna la flasque de sa bouche.
« Tu t'es trompé de bouteille, Melten. Ça, c'est un liquide que tu as puisé dans la cuve d'une tannerie.
Melten ricana. Dire qu'on prétend que tu n'as pas le sens de l'humour, seigneur.
C'est la stricte vérité. Ne t'éloigne pas trop de moi avec ton épée.
L'air très grave, Melten acquiesça.
Bourreau des fléaux,
lâcha-t-il.
Pardon.
Un titre des terres frontalières. Quand on tue un blafard, on est digne de le porter.
Celui que j'ai zigouillé avait au moins 17 carreaux dans le corps.
Aucune importance. Melten tapa sur l'épaule de son chef.
Bourreau des fléaux. Quand tu ne pourras plus supporter la douleur, lève les deux poings vers moi. Je ferai ce qu'il faudra.
Talmanès se mit debout, tentant en vain d'étouffer un gémissement. Melten et lui se comprenaient à demi-mot. Dans la compagnie, les bras rouges originaires des terres frontalières étaient tous d'accord. Les blessures infligées par une lame de Takandar restaient imprévisibles. Certaines s'infectaient très vite, et d'autres rendaient simplement malades. Quand elles noircissaient, comme celle de Talmanès, ce n'était pas du tout bon signe. Pour le sauver, il faudrait qu'une Aes Sedai s'occupe de lui dans les heures à venir.
« Tu sais, » dit-il, « ne pas avoir le sens de l'humour est une bonne chose. Sinon, je penserais que la trame me fait une blague. Denel, tu as une carte disponible ?»
Par la lumière, combien Vanin manquait à Talmanès. Une torche dans une main et une carte dessinée à la hâte dans l'autre, Denel accourut. Depuis peu, il faisait partie des capitaines des dragons.
« Seigneur, je crois avoir trouvé un chemin plus rapide pour accéder à l'endroit où Aludra a entreposé les dragons. »« Le palais d'abord, »
fit Talmanès, laconique. Denel tira sur son uniforme comme s'il n'était pas vraiment à sa taille. Puis il parla plus calmement, mais toujours avec conviction.
« Si les ténèbres s'emparent de ces armes, j'ai conscience du danger, merci. Combien de temps faudra-t-il pour déplacer ces dragons, en supposant qu'on les atteigne ? Je redoute d'étirer trop nos rangs, et cette ville brûle plus vite qu'une liasse de lettres d'amour adressées à la maîtresse d'un haut seigneur et imbibée d'huile après la rupture. Mon idée, c'est de récupérer les armes et de filer d'ici le plus vite possible. Je peux détruire les fortifications ennemies en un tir ou deux, seigneur. Mais les dragons ne sont pas très mobiles. Ils sont équipés de roues, ce qui nous aidera. Mais ils n'iront pas plus vite que, eh bien, disons, un convoi de chariots de ravitaillement. Une fois à destination, il faudra pas mal de temps pour les mettre en batterie et pouvoir tirer.
Dans ce cas, d'abord le palais,
confirma Talmanès.
Mais au palais, nous trouverons peut-être des femmes capables de nous ouvrir un portail donnant sur la cachette d'Aludra. De plus, si des gardes palatiaux combattent encore, nous aurons des amis pour couvrir nos arrières. Les dragons, nous allons les récupérer, mais en nous montrant malins.
Talmanès avisa Ladwin et Mar, deux éclaireurs qui revenaient de leur mission.
Là-haut,
dit Mar, le souffle court.
Ça grouille de Trolloc. Une centaine au moins, tapis dans la rue principale.
En formation, les gars,
cria Talmanès.
On fonce vers le palais.
Un lourd silence s'abattit sur la tente étuve. Aviendas s'attendait à de l'incrédulité quand elle aurait raconté son histoire, et à un bombardement de questions, mais pas à ce mutisme douloureux. Même si elle n'avait pas anticipé cette réaction, elle la comprenait. Après avoir vu un avenir où les Aiel perdaient peu à peu leur honneur et leur fierté, elle avait eu la même. Une sorte de sidération devant la décadence inexorable de son peuple. Au moins, à présent, elle avait des gens avec qui partager son fardeau. Dans le chaudron, les pierres chauffées grésillaient. Il aurait fallu ajouter de l'eau, mais aucune des six femmes présentes sous la tente n'esquissait un geste. Les cinq compagnes d'Avienda étaient toutes des matriarches. Nues comme des vers, elles aussi, ainsi qu'il convenait sous une tente étuve. Sorilea, Amis, Beir, Mélaine et Chimère des Aiel Tomanel. Perdues dans leurs pensées, ces femmes regardaient dans le vide. L'une après l'autre, elles se redressèrent, le dos bien droit, comme si elles acceptaient un nouveau fardeau. Cette vision réconforta Avienda. Non qu'elle se fût attendue à les voir craquer, mais qu'elle regarde ainsi les choses en face et affronte le danger avec quelque chose de rassurant.
« L'aveugleur est bien trop près du monde, » dit Mélaine. « D'une façon ou d'une autre, la trame est distordue. Dans le rêve, nous voyons toujours des événements qui peuvent se produire, ou non. Mais il y a trop de possibilités pour faire le tri. Pour celles qui marchent dans le rêve, le destin de notre peuple n'est pas clair, parce que c'est celui du Karakarn, une fois qu'il aura craché dans l'œil de l'aveugleur, lors du dernier jour. Pour l'instant,
Nous ne savons pas si ce qu'Avienda a vu s'avérera ou non.
Nous devons essayer de le découvrir,
dit Sorilea le regard glacial.
Il faut savoir. Chaque femme verrait-elle la même chose, ou était-ce une expérience unique?
Elena des Aiel Darin, dit Amis. Son entraînement est presque terminé. Elle doit être la prochaine à partir pour Widéan. Nous pourrions demander à Aid et à Shani de l'encourager.
Avienda faillit en frissonner. Désormais, elle savait à quel point les matriarches pouvaient être encourageantes.
« Ce serait très bien, »
fit Beir en se penchant en avant.
« Au fond, c'est peut-être ce qui arrive lorsque quelqu'un traverse une deuxième fois les colonnes de verre. Qui sait, peut-être est-ce pour ça que c'est interdit. »
Aucune matriarche ne regarda Avienda, mais elle sentit qu'elle songeait tout à elle. De fait, ce qu'elle avait fait n'était pas autorisé. Et parler des événements survenus à Ruidéan était en principe proscrit. Pourtant, Avienda ne risquait pas de réprimande. Ruidéan ne l'avait pas tué. Voilà ce que la roue avait tissé. Alors que Beir continuait à sonder le vide, Avienda sentit de la sueur ruisseler sur ses tempes et entre ses seins.
« Prendre des bains ne me manque pas, » se rappela-t-elle.
Enfin, elle n'était pas une chiffe molle, contrairement aux habitants des terres mouillées. Cela dit, il n'y avait pas vraiment besoin d'une tente étuve de ce côté des montagnes. Le soir, on ne gelait pas. Du coup, l'extrême chaleur de la tente n'avait rien de revigorant. Alors si on disposait d'assez d'eau pour remplir une baignoire...
« Non !»
Avienda serra les dents.
« Je peux parler ?»« Ne sois pas stupide, ma fille !»
lâcha Mélaine. Le ventre bien rond, elle était plus loin du terme.
« Tu es une des nôtres à présent. Plus besoin de demander la permission. »
Ma fille, ces femmes auraient besoin de temps pour l'accepter vraiment. Au moins, elle s'efforçait d'essayer. Et personne n'exigeait qu'elle prépare les infusions ou verse de l'eau dans un chaudron. En l'absence d'autres apprentis et de Gaïshine, les femmes s'y collaient chacune à son tour.
« Que les visions se reproduisent ou non m'est égal, »
dit Avienda.
« La vraie question est, ce que j'ai vu arrivera-t-il? Est-il possible de l'empêcher ?»«
Ruidéan montre deux types de visions, »
rappela Kimer. Plus jeune que les autres matriarches, elle devait avoir 10 ans de plus qu'Avienda au maximum. Le visage très hâlé, elle arborait une belle crinière rousse.
Lors de la première visite, on découvre ce qui pourrait être. Pendant la seconde, au milieu des colonnes, on voit le passé.
La troisième vision doit être aussi fiable,
avança Amis.
Sur le passé, les colonnes sont toujours d'une parfaite précision. Pourquoi montrerait-elle un avenir fantaisiste?
Le cœur d'Avienda rata un battement.
« D'accord, »
fit Beir.
« Mais pourquoi les colonnes dévoileraient-elles un avenir désespérant qu'on ne peut pas changer? Moi, je refuse d'y croire. Ruidéan nous a toujours montré ce que nous avions besoin de voir. Pour nous aider, pas pour nous détruire. Ces visions doivent aussi avoir un objectif. Nous encourager à plus d'honneur encore? C'est sans importance, »
coupa Sorilea.
« Mais... »
commença Avienda.
« Sans importance !»
répéta Sorilea.
« Si ces visions sont gravées dans le marbre, notre destin étant la décadence, une seule d'entre nous cesserait-elle de lutter pour qu'il en soit autrement ?»
De nouveau, un lourd silence s'abattit sur la tente. Avienda secoua la tête.
« Tu vois ?»
fit Sorilea.
« Nous devons considérer que cet avenir est modifiable. Au lieu de nous appesantir sur ta question, nous ferions mieux de décider que faire. »
Avienda acquiesça d'instinct.
« Oui, tu as raison, matriarche. Mais que devons-nous faire ?»
demanda Kimer.
« Que faut-il modifier? Au minimum, nous devons remporter l'ultime bataille. »
« Et ce n'est pas garanti, »
dit Amis.
« J'aimerais presque que ces visions soient immuables. Ainsi, nous serions sûrs d'avoir vaincu. »
« Ça ne prouverait rien, »
objecta Sorilea.
« Si l'aveugleur gagne, la trame sera déchiquetée. » Et aucune vision du futur n'aura plus de sens. Même si des prophéties annoncent ce qui se produira dans les âges à venir, un triomphe de l'aveugleur les rendra nuls et non avenus.
« Ce que j'ai vu, »
dit Avienda,
« doit avoir un lien avec le plan de Rand, quel qu'il soit. »
Les 5 autres femmes se tournèrent vers elle.
« Demain, »
précisa Avienda,
« d'après ce que vous m'avez dit, il nous réserve une révélation capitale. »«
Le Karakarn, »
fit Beir.
A une faiblesse pour les mises en scène dramatiques. Il est un peu comme un crocobure, qui travaillent toute la nuit pour se construire un nid, histoire de pouvoir y chanter au matin pour tous ceux qui veulent bien l'entendre. »
Avienda avait été surprise par le grand rassemblement du chant de Merilor. Si elle était arrivée sur ce site, elle le devait à son lien avec Rand, qui l'avait guidée vers lui. En découvrant une telle réunion d'habitants des terres mouillées, elle s'était demandé si ça avait un rapport avec ses visions. Cet événement était-il à l'origine de l'avenir qu'elle avait vu pour son peuple ?
« J'ai le sentiment d'en savoir plus que je le devrais, »
dit-elle, presque pour elle-même.
« Tu as eu un vaste aperçu de ce que sera l'avenir, »
dit Kimer.
« Cette expérience te changera, Avienda. La clé, c'est demain. Son plan. De ton récit, »
fit Kimer,
« on peut déduire qu'il a l'intention d'ignorer les Aiel, qui sont pourtant son peuple. Pourquoi distribuerait-il des faveurs à tout le monde, sauf aux gens qui le méritent le plus ? Cherche-t-il à nous insulter ? Je ne crois pas que ce soit ça. »
répondit Avienda.
Je pense qu'il entend présenter des exigences aux participants de cette réunion. Il n'est pas là pour les couvrir de bienfaits.
Il a parlé d'un prix,
rappela Beir.
Un prix que les autres devront payer. Personne n'a pu lui faire dire de quoi il s'agissait.
Ce soir, il est allé à Théar via un portail et il en est revenu avec quelque chose.
Mélaine marqua une courte pause.
Les promises nous ont rapporté cet événement. Désormais, il tient son engagement de les emmener partout avec lui. Quand nous l'avons interrogé au sujet de ce prix, il a répondu que les Aiel ne devaient pas s'en inquiéter.
Avienda se rembrunit.
Il entend se faire payer pour accomplir ce qu'il doit accomplir quoi qu'il arrive ? N'aurait-il pas passé trop de temps avec la nounou que le peuple de la mer lui a envoyée ?
Non, il a raison,
dit Amis.
Ces gens sont tellement exigeants vis-à-vis du Karakarn. Ça lui donne le droit de leur demander quelque chose en retour. Ils sont faibles. « Peut-être veut-il simplement les rendre forts. »«
Du coup, »
souffla Beir,
« il nous exclut de cette affaire parce que nous sommes déjà forts. »
Dans un lourd silence, Amis, l'air perturbé, alla verser de l'eau sur les pierres chaudes, qui grésillèrent de plus belle tandis que de la vapeur en montait.
« Ce doit être ça, »
dit Sorilea.
« Il n'entend pas nous insulter, mais nous honorer à sa façon. »
Elle secoua la tête.
« Il devrait être moins naïf. »
Souvent.
Renchérit Kimer.
Le Karakarn profère des insultes sans le savoir, comme s'il était un enfant. Nous sommes forts, donc ce qu'il exige, quoi que ce soit, ne nous concerne pas. Si c'est un prix que les autres peuvent payer, nous le pouvons aussi.
S'il avait été formé convenablement parmi nous,
souffla Sorilea,
il ne commettrait pas ce genre d'erreur.
Avienda croisa le regard des autres femmes. De fait, elle n'avait pas formé Randaltor aussi bien qu'il aurait pu l'être. Mais c'était une tête de pioche. Et elle le savait toute. De plus, Avienda était l'égale de ses matriarches désormais. Cela dit, sous la désapprobation évidente de Sorilea, il se révélait difficile d'en avoir conscience. Peut-être parce qu'elle avait passé trop de temps avec des gens comme Elaine, des faibles, des terres mouillées, Avienda vit soudain les choses comme Rand devait les voir. Dispenser les Aiel de s'acquitter du prix, si c'était vraiment son intention, revenait à les honorer. D'ailleurs, s'il avait exigé d'eux ce qu'il exigeait des autres, ces matriarches auraient été en train de s'indigner d'être mises dans le même sac que les minables des terres mouillées. Que préparait Rand ? Dans ses visions, Avienda en avait eu un aperçu, mais elle était de plus en plus sûre que le lendemain serait la clé de tout. Le début de la dérive qui conduirait inéluctablement les Aiel à leur perte. Avienda devait s'assurer que ça n'arrive pas. C'était son devoir de matriarche, et sans doute la mission la plus importante qu'elle aurait à accomplir. Pas question d'échouer.
« La tâche d'Avienda n'est pas seulement de le former, »
dit Amis.
« Que ne donnerais-je pas pour le savoir sous la bienveillante surveillance d'une femme de bien ?»
La matriarche gratifia Avienda d'un regard lourd de signification.
« Il sera à moi !»
affirma Avienda.
« Mais pas pour toi, Amis, ni pour notre peuple. »
La force du sentiment qu'elle éprouvait stupéfia Avienda. Pour une Aiel, son peuple aurait dû passer avant tout. Mais ce choix n'appartenait pas aux Aiel. C'était le sien.
« Sois prévenu, »
dit Beir, en posant une main sur le poignet d'Avienda.
« Depuis ton départ, il a changé. Et il est devenu fort. »«
En quel sens ?»«
Il a embrassé la mort, »
répondit Amis, la voix vibrante de fierté.
« S'il porte toujours une épée et s'habille encore comme un habitant des terres mouillées, il est enfin des nôtres, pour de bon. »
« Je dois voir ça !»
fit Avienda en se levant.
« Et j'en profiterai pour en apprendre plus long sur son plan. »«
Il ne reste pas beaucoup de temps, »
rappela Kimer.
« Une nuit, oui. Et ce sera suffisant. »
Les autres, acquiesçant, Avienda commença à s'habiller. À sa grande surprise, les cinq matriarches l'imitèrent. À l'évidence, elles jugeaient son récit assez important pour aller informer leurs collègues au lieu de rester à discuter en rond. Avienda fut la première à émerger de la tente étuve. L'air frais, après la chaleur étouffante, lui fit un bien fou. Savourant le contact du vent sur sa peau, elle inspira à fond. Mentalement, elle était épuisée. Mais le sommeil devrait attendre. Le petit bruit du rabat de la tente signala la sortie des autres femmes. Tout en murmurant entre elles, Mélaine et Amis s'enfoncèrent dans la nuit. D'un pas décidé, Kimer se dirigea vers la section du camp où étaient installés les Tomanel. Peut-être avec l'intention d'informer son oncle Anne, le chef de sa tribu. Avienda voulut s'éloigner, mais une main osseuse se referma sur son avant-bras. Tournant la tête, elle vit que c'était Bair qui la retenait ainsi.
« Matriarche !»
souffla-t-elle. Un pur réflexe.
« Matriarche !»
répliqua Bair avec un sourire.
« Puis-je faire quelque chose ? Je veux aller à Ruidéan. »
Bair consulta brièvement le ciel.
« Aurais-tu l'obligeance d'ouvrir un portail pour moi ?»«
Tu prévois de traverser les colonnes de verre ?»«
L'une d'entre nous doit le faire. Malgré ce que dit Amis, Elenar n'est pas prête. Surtout s'il s'agit de voir ce que tu sais. Cette gamine passe la moitié de ses journées à criailler comme un charognard qui dispute aux autres les derniers lambeaux de viande d'une carcasse pourrie. Mais, oh, ne commence pas aussi. Tu es l'une des nôtres, Avienda, certes. Mais je suis assez vieille pour m'être occupée de ta grand-mère quand elle était au berceau. »
Bair secoua sa crinière de cheveux blancs qui semblait scintiller sous la lumière de la lune.
« Je suis la meilleure candidate. Celles d'entre nous qui savent canaliser doivent être préservées pour l'ultime bataille. Et je ne voudrais pas qu'une gamine s'aventure entre ces colonnes. Donc je le ferai. Alors, ce portail, accéderas-tu à ma demande ou vais-je devoir houspiller Amis pour qu'elle le fasse ?»
Avienda aurait aimé voir ça. Houspiller Amis pour qu'elle fasse quelque chose. Seule Sorilea aurait pu réussir. Sans un mot, elle généra les flux requis pour ouvrir un portail. L'idée que quelqu'un d'autre voit l'avenir des Aiel lui donnait la nausée. Si Bair revenait avec le même récit, quelle conclusion faudrait-il en tirer? Ce futur serait-il des plus probables?
« C'était terrifiant, pas vrai ?»
demanda Bair.
« Affreux, oui. Une lance en aurait pleuré. » Et une pierre s'en serait effritée. J'aurais préféré danser avec l'aveugleur en personne. Alors, il vaut vraiment mieux que j'y aille. C'est à la plus forte d'entre nous de le faire.
Avienda s'empêcha de justesse d'arquer un sourcil. Bair était aussi solide que du vieux cuir, mais les autres matriarches n'avaient rien de pétale de rose.
« Bair, »
demanda Avienda,
« as-tu jamais rencontré une femme nommée Nakomi ?»« Nakomi ?»
Bair fit tourner ce mot dans sa bouche, comme pour mieux le goûter.
« Un très ancien nom. Je n'ai jamais croisé quelqu'un qui le portait. Pourquoi ?»«
Sur le chemin de Ruidéan, j'ai rencontré une Aiel. Elle affirmait ne pas être une matriarche, mais il y avait quelque chose en elle. »
Avienda secoua la tête.
« Ma question était de la pure curiosité. »
Bair se prépara à franchir le portail.
« Eh bien, nous saurons bientôt ce qu'il en est de ces visions. »
« Et si elles sont vraies, Bair ? S'il n'y a rien à faire pour changer l'avenir ?»
Bair se retourna.
« Tu as vu tes enfants, c'est ça ?»
Avienda acquiesça. Sur cette partie des visions, elle ne s'était pas appesantie. Un sujet qui semblait bien trop personnel.
« Change un de leurs noms, »
conseilla Bair.
« Et ne mentionne jamais celui que cet enfant portait dans les visions, même devant nous. Ainsi, tu sauras. Si une chose est différente, d'autres peuvent l'être aussi, et le seront. Ce n'est pas notre destin, Avienda, mais un chemin que nous éviterons, ensemble. »
Avienda hocha la tête. Un changement infime, oui, mais lourd de sens.
« Merci, Bair. »
La vieille matriarche salua Avienda de la tête, puis elle traversa le portail, en route pour la fabuleuse cité qui l'attendait de l'autre côté.